Hey les gars, imaginez sortir de chez vous sans pantalon. Pas top, hein?
Non, c'est pas top.
Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert, mais pas de panique. Savez-vous pourquoi? Parce que Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé, sans frontières. Bloquer les pubs agaçantes, les trackers et les logiciels malveillants en un seul clic. Et devinez quoi? Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi. Avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans limite. Toute la famille est couverte. Si vous avez besoin d'un accès rapide, 3000 serveurs dans plus de 100 pays vous attendent. Envie de contenu étranger, changez de pays virtuellement et dites adieu aux restrictions. Et avec le pack Surfshark One, il y en a-tu des affaires? C'est incroyable, ça. Vous avez aussi un antivirus certifié, des alertes de fuite de données, un moteur de recherche privé et même une identité alternative pour surfer incognito. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursée 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cliquez, installez. Respirez, vous invite au lien surfshark.com/podf1. PODF1.
La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique.
Messieurs, Hugo, oui. Fred, bienvenue dans cet épisode 8 de l'épingle. Post-Imola. Mm-hmm. Et post-Imola, ça veut dire plein d'affaires, surtout que on ne retournera probablement plus jamais là courser.
Ouais.
Mais ouais. On est sorti de ce circuit-là, du circuit d'Émilie-Romagne, le Autodromo Enzo e Dino Ferrari.
Ton accent italien, il est charmant, solide, man.
Hein? Moi, les accents, ça me passionne.
Ben, tu fais bien. Continue à les faire.
Ferrari.
Ça me charme.
Grazie a tutti. Grazie a tutti, ce qu'on entendait Lewis dire dans sa voiture après. La course, les gars, on est sortis de brillante façon. Par contre, quelle course! On s'attendait pas à ça. Pendant tout, je m'attendais à un snooze fest comme les dernières années, mais finalement, ça a été un très, très beau week-end de course.
Ouais. On peut voir des dépassements, des stratégies un peu alternatives pour différentes équipes. Puis c'est vrai que ça a été vraiment plus excitant que ce qu'on s'attendait. Moi, je pensais que j'allais me lever, allumer ça, puis... peut-être snooze un petit peu,
dimanche,
là.
Ouais,
un petit dimanche matin, là. Exact.
Un peu comme au Japon, je me suis dit, je vais peut-être ramener mon Orient en studio.
Finalement, Max nous a mis sur le qui-vive au premier tour, puis après ça, je suis quand même resté assez hooked.
Ouais, c'est parce qu'on a eu des pilotes qui voulaient dépasser, même si la piste était étroite. Moi, j'ai trouvé ça malade, notamment là, avec Pierre Gasly et Charles Leclerc. Là, Pierre Gasly est allé dans le sable. Les gens osent, puis j'aime ça. On dirait qu'on profite aussi du fait qu'on a beaucoup de tarmac, là. Dans les sorties de virage, mais ça a été vraiment cool de voir ça, voir les pilotes agressifs comme ça.
Ouais, concernant 100%. Gasly, pas sûr de cette erreur-là. Là, on a blâmé Charles Leclerc, mais Charles a regardé ça lui-même. Peut-être j'en demandais pas autant là, non plus dans cet incident-là.
Non, il aurait pu freiner, mais il a choisi la route gravelée.
Oui, il a choisi de faire comme Max, ne pas freiner.
Exact.
Ça sert à rien freiner, hein, surtout dans le virage 1. Quel dépassement de match pour commencer cette course-là. Les gars, on va y revenir, mais ça pose beaucoup de questions. Je suis certain que tu as de la télémétrie pour nous, d'ailleurs, chez Red Bull, qui ont dominé cette course-là. Tu sais, Miami, McLaren gagne par 30 secondes. Tu arrives à Imola, c'est Red Bull par 20 secondes, ou presque. Lando s'est rapproché à la fin, mais on était très, très loin devant dans le cas de Max Verstappen. Tu as dit qu'il y avait plusieurs stratégies différentes. J'ai envie de dire, il y avait des équipes également, en bon français, avec pas de stratégie aussi. Là.
On attendait de voir un peu.
Tellement déçu de McLaren en fin de semaine. Puis c'était un peu la même prémisse qu'avant qu'on commence la saison, quand je disais les McLaren sont un peu leur propre ennemi et on a de la difficulté à poser des décisions un peu comme chez Ferrari. Là.
Ben, on en a pris une décision avec Piastri, par contre, de le rentrer quand même assez tôt après qu'il ait dit rapidement que ses pneus ils passaient dans une phase un peu moyenne pendant la course, puis de dire, ben là...
Ouais, c'était pas la bonne, par exemple. On a comme un peu paniqué, puis...
On a un peu joué du fait que Leclerc était rentré, avait réussi à undercut, je pense, Russell, puis je me souviens plus qui d'autre qui était juste derrière lui, mais tu sais, a quand même réussi à mettre une nouvelle gomme, de faire quelques tours rapides, puis après ça, quand eux sont rentrés au puits, Leclerc les avait passés de par son arrêt, puis de ses tours ensuite. J'ai l'impression qu'on a vu ça, qu'on s'est dit que Max était en train de gagner la course sur du pace, qu'on pensait probablement pas que ça allait être le cas du côté de McLaren, fait que on a peut-être pris une décision un peu rapide, dans le sens on va essayer quelque chose, mais c'était pas... C'était peut-être pas le meilleur move si on voulait maximiser le résultat de Oscar, mais en même temps...
Je suis d'accord avec toi en disant on s'est dit, bon, on va essayer de tenter autre chose pour faire gagner
Oscar. Forcer la situation un peu, oui.
Mais c'était pas un peu de la panique, les gars? Je veux dire, rendu là en se disant, oh mon Dieu, Max, c'est trop rapide, on n'est pas capable de couvrir, puis on va essayer une stratégie différente tout de suite. Puis tu t'es un petit peu tiré dans le pied en faisant ça.
Un peu, puis dans le sens aussi, est-ce que c'était le bon move de le faire avec Piastri alors qu'il était deuxième, qu'il exact. Avait déjà la deuxième place? Est-ce que tu fais pas ça avec Norris qui est en troisième à ce moment-là ou même en quatrième? Je me rappelle plus exactement, mais tu prends ton pilote qui est dans la meilleure posture, tu essaies de quoi peut-être d'un peu champ gauche. Ouais. C'était peut-être pas la meilleure décision à ce moment-là. Là.
C'était une genre de zone grise aussi parce qu'il était à 2 secondes, puis là finalement... Ouais. Il n'a pas été chanceux. Je pense que son premier arrêt, c'était 3.4.
Ouais, un peu lent aussi.
Ouais, un peu lent. Donc, tu sais, on dirait qu'il y a eu beaucoup de malchance là-dedans. Mm-hmm. Tandis que Norris, comme tu dis, Fred, avait beaucoup de rythme. Là. Il avait beaucoup plus de rythme, en fait, que Piastri. Donc, ouais, je comprends pas pourquoi. Ben, c'est ça, McLaren est en train de se tirer une balle dans le pied un peu avec ses décisions de course. Mm-hmm. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour Piastri parce que je pense qu'il y a quand même une solide course à part ça.
Je sais pas s'il y aurait eu une option sur la victoire quand même si on l'avait laissé à l'extérieur. Tu sais, si on avait attendu puis on avait dit bon, on va juste couvrir Max puis il lead la course, on va les laisser puis on va réagir à ce qu'ils font.
Mais c'est de sa faute à Oscar. Aussi. Il a voulu couvrir George où il était surpris par le départ de George.
Ah, ça au départ 100%.
Oscar a eu un bon départ. George a eu un excellent départ. Mm-hmm. Puis il s'est mis tout de suite derrière lui puis en voulant bloquer George, il a comme oublié que Max était là. T'sais, on chante le talent, les exploits d'Oscar depuis plusieurs semaines ici dans le podcast. Il est encore en apprentissage, le kid. Là. Mm-hmm. Donc, je pense que
morale de l'histoire pour lui, quand ton miroir gauche, c'est George Russell, puis dans le droit, t'as Max Verstappen, on regarde un peu plus dans le droit peut-être, puis qu'au plus ce côté-là. Là. Mm-hmm. Parce que George Russell n'était pas dans une posture si bonne pour pouvoir le dépasser là. Il l'a un peu surcouvert, puis... Ouais. Laisser la porte 100% ouvert à Max de l'autre côté.
Et George qui a pleuré dans sa radio.
Mais oui.
Mais qu'est-ce que Oscar fait? Ouais. Pourquoi il me bloque? Bon, allez, t'es en arrière de lui, là, je veux dire.
Fallait qu'il fasse quoi exactement?
Exactement. C'était, donc, c'est un week-end. On a tellement long d'informations à vous livrer, à analyser dans tout ça. Juste si on regarde le résultat de la course là, rapidement, Max qui l'emporte devant Lando, Oscar, Lewis. Mm-hmm. Alex Albon, Charles Leclerc, George Russell, Carlos Sainz, Isaac Hadjar et Yuki qui terminent dans le top 10. Tu as eu des grands gagnants, des grands perdants dans cette course-là et beaucoup de questions qu'on va transporter vers Monaco. Mm-hmm. Mais d'abord, on l'a dit, c'était la dernière course à Imola. Ça ne retournera pas. Il y a trop de demandes présentement, même au niveau européen. Mais je pense que le marché est quand même assez saturé en Italie. Puis avant de donner mon opinion, puis on peut demander aussi aux gens qui nous écoutent d'y aller avec leurs opinions là-dessus. Est-ce que vous êtes triste qu'on quitte Imola? Qu'est-ce que vous pensez de... Ouais, Hugo, il se pince les lèvres un peu.
Non, mais moi, personnellement, je trouve qu'Imola, c'est une des grandes pistes dans l'histoire de la Formule 1, mais a eu quand même son lot de déboires. Là. On se commémorera naturellement la mort à Ayrton Senna puis
Roland Ratzenberger,
exact. Je pense que c'est le temps de passer à autre chose aussi. Ça va être, je crois, le premier chapitre dans la nouvelle ère de la Formule 1 où justement la direction et le groupe propriétaire Liberty Media va être capable d'analyser en fait les enjeux derrière les vieilles pistes. Puis c'est drôle parce que de toute façon, on s'en va tout de suite à Monaco.
À Monaco, là.
Je sais pas si la conversation va se poursuivre là. Ça va être assez intéressant.
Ouais. On parlera de Monaco en fin d'épisode, là, mais Bref, on en parlera en fin d'épisode.
Mais sur, ouais, sur Imola, c'est sûr que c'est dommage de laisser partir un circuit un peu historique comme ça, mais encore en fin de semaine, on voit le crash de Tsunoda puis aussi celui de Colapinto qui ont été quand même assez catastrophiques pour des erreurs un peu bêtes. C'était pas des grosses erreurs qui ont été commises. Puis finalement, les conséquences auraient pu être plus graves que ce qu'ils ont été. Tu te dis que c'est quand même... Il y aurait des améliorations à faire au niveau sécurité probablement au circuit.
Mais on peut pas.
Mais c'est ça, mais au final, c'est serré, puis ça ressemble à ce que ça ressemble. Fait que non, je pense que, puis tu sais, on était chanceux d'avoir une bonne course parce que je me rappelle très bien celle de l'an passé que j'ai suivie avec encore plus de d'entrain c'était comme une des courses parce qu'on avait des nouvelles pièces sur l'auto l'an passé, puis ça commençait à être serré avec McLaren, puis tu sais, c'était rien passé du tout, aucun dépassement, puis tu pouvais défendre super bien, alors que cette année, là, au moins, on a pu voir peut-être à cause de la différence entre les pneus d'une gamme à l'autre. On a pu voir des dépassements, puis le DRS a quand même fonctionné relativement bien aussi. Mais ouais, ça reste une piste où est-ce que c'est étroit. Les voitures sont larges.
Une chance qu'on a eu aussi les voitures de sécurité.
Ouais,
c'est un peu
exact.
Là que ça a tout changé, parce que avant ça, oui, tu as eu le dépassement de Max.
T'avais Piastri qui remontait un peu à travers le field, que artificiellement, ça donnait un peu d'action, puis ça mettait de quoi.
Mais le reste, tu regardais, c'était un train de DRS. Lewis était pris en arrière de Kimi Antonelli, était pris en arrière de là. T'étais tout à 0.6, 0.7, 0.8, et il n'y avait rien qui se passait là. Donc, je me disais, oh mon Dieu, le snooze fest, toi qui s'en viens. Mais non, finalement, on a eu droit à Haas qui nous ont aidé un petit peu.
Ouais, ils sont allés parquer ça dans le gazon à gauche. Puis...
Mais d'ailleurs, chapeau là, à Isaac Hadjar et Yuki Tsunoda qui ont été quand même capables de ralentir Piastri dans le fait de remonter là, dans l'ordre. Hadjar a une excellente course, on en reparlera. Mais
on va en reparler pour analyser ça. Écoute, moi, de voir un circuit, puis la domination de Max Verstappen en fin de semaine, puis quatre fois dans les dernières saisons, montre que c'est un circuit de pilotage à 100%. Il y a des pilotes qui ont eu de la misère à garder ça sur la piste.
On a vu des erreurs quand même dans la course, des gars qui sortaient des virages.
Lando qui est arrivé pour dépasser, puis que lui-même est arrivé pour dépasser George, puis lui-même, comme un grand, a mis deux roues dans le gazon. Donc, je veux dire qu'il a ressorti la tondeuse qu'on avait vue il y a quelques semaines. C'était assez comique. Mais, je suis pas nécessairement triste qu'on s'en aide.
Non, moi non plus. Autant, il y a d'autres circuits qui sont historiques aussi. Puis là, celui-là, peut-être un peu démodé, puis un petit peu moins adapté à la fin moderne. Fait qu'on passera à d'autres choses, puis... On aura encore des bons week-ends entertaining.
Tombons dans l'analyse du week-end maintenant. Et le tout est présenté par La Chute Performance. Les week-ends de Grand Prix nous inspirent. Mais chez La Chute Performance, la performance, c'est sans compromis. On la développe au quotidien depuis plus de 20 ans. On est le spécialiste Subaru au Canada. Et on donne vie à vos projets les plus ambitieux. Une Subaru à la fois. Merci à La Chute Performance d'être avec nous autres. On l'a dit, Max Verstappen qui l'a emporté. Son coéquipier 10e. J'aimerais ça prendre les infos qu'on a. Je pense qu'on va y aller par équipe.
Ce ne sera pas mauvais, je pense.
Et toi, tu vas pouvoir nous donner du data également et de la télémétrie parce que, il y a eu de la performance qu'on a vue dans différentes voitures. Il y en a qui en ont manqué, on s'est repris. Puis on va y aller dans l'ordre où est-ce que ça a terminé dans la course. Donc, commençons chez Red Bull. Red Bull, qui n'était pas nécessairement dans le coup, puis on dit que Max, là, je viens de le dire il y a 30 secondes, là, que c'est un circuit de pilotage uniquement. Est-ce que Red Bull est revenu dans le coup, puis on a une voiture excessivement rapide, ou c'était vraiment du gros Max Verstappen en fin de semaine, et à Monaco, on va retourner dans un rôle plus secondaire, mettons?
Je vais te donner une réponse en deux temps sur Red Bull pour ça. C'est sûr que je suis biaisé. Quand même, parce que c'est quand même une équipe que j'affectionne.
Dit-il avec sa casquette.
Ouais, c'est ça.
Mais on avait un upgrade chez Red Bull en fin de semaine. Pas quelque chose de massif, mais des concepts que j'ai vu travailler là-bas, puis sur lesquels j'ai travaillé, qu'on n'avait pas réussi à adopter l'an passé. Des concepts qui sont sur la McLaren, qui sont maintenant sur la Ferrari aussi, notamment un petit aile sur le side pod qui s'attache au miroir. Aucunement prometteur dans Soufflerie l'an passé. Là, se retrouve sur la voiture à Imola en fin de semaine. Je ne sais pas ce qu'on a fait comme ajustement pour faire fonctionner ce concept-là, mais clairement, ça fonctionne pour Ferrari et McLaren, puis dans les outils, c'est bon.
Pas grand-chose fonctionne chez Ferrari, donc je suis très heureux de voir qu'au moins ça, ça fonctionne.
En tout cas, on a amené cet upgrade-là, puis j'ai envie de dire que c'est quand même un point tournant un peu dans la saison chez Red Bull, parce que là, c'est la première course sèche qu'on gagne vraiment sur du pur pace depuis... Ah oui, capable vrai. De me dire la dernière fois que Max a gagné puis qu'il a réussi à se faire un gap facilement puis à garder ce gap-là sans... Tu sais, on sentait pas trop de stress là, de sa part hier dans la gestion de la course, dans la gestion
de ses pneus. Ça va au début de saison 2024.
Probablement, ouais, la dernière fois que c'est arrivé, ça va être justement, c'est ça, dans les 5 ou 6 dernières courses de l'autre saison d'avant. Fait que prima là, l'an passé, que c'est arrivé ça la dernière fois. Puis là, en fin de semaine, on réussit à avoir ça.
Il avait pas gagné à Miami...
Non.
Ben, c'est peut-être Imola l'année passée.
Il y a un an, c'était le point tournant dans l'autre sens. L'an passé, j'ai envie de dire que c'est McLaren a commencé à prendre le dessus. Puis là, on voit, en tout cas, c'est une course. Puis je pense qu'on ne sera pas capable de dire avec Monaco si cette tendance-là se maintient. Ça va probablement plus aller à Barcelone. Mais j'ai envie de dire qu'on a peut-être un espèce de retour en ce moment qui se fait. Ou est-ce qu'on est capable de fermer le gap un peu avec la compétition chez Red Bull? Puis ça serait quand même. C'est ça qui va nous donner un excellent fight pour le championnat des pilotes. Là.
T'as-tu le data par tour du temps gagné, Max?
Oui, ben j'ai cette année versus l'an passé. J'ai pas les temps de qualif, mais j'ai le race pace. Puis Max, le tour moyen, cette course-ci était de 80,31 secondes.
Okay.
Puis l'an passé, on était à 80,88 pour Max. Sur
quand
la
même,
fait quand même une demi-seconde d'amélioration. Puis tu vois, Norris, l'an passé, on était à 80-86 du tour. Puis cette année, on est à 84-49 du tour.
Ouais, c'est
ça. Il y a quand même eu du clean air, là, Norris, pendant
une
bonne partie de la course. Fait que c'est quand même assez représentatif.
Ouais.
Fait que une demi-seconde d'amélioration pour Red Bull versus l'an passé. Puis McLaren, on parle plus d'un 3/10 pour le même circuit. Fait que, oui, il y a des affaires de setup, il y a des trucs qui vont peut-être plus s'adapter à une voiture qu'à une autre. Puis je pense que Red Bull avait une meilleure voiture pour ce circuit-là en fin de semaine. Mais quand même... C'est la première fois depuis un an où est-ce qu'on voit Red Bull gagner sur du pure pace. Là. Puis on a vu Tsunoda être capable de quand même faire une remontée intéressante aussi. Fait que...
Je pense qu'on l'a laissé trop longtemps sur ses médiums au début.
Possiblement,
ouais. On a vu qu'il s'est fait dépasser, redépasser, puis avoir la difficulté à retenir les différents pilotes. Là.
Mm-hmm.
Dans ce cas-là, puis son accident de samedi, il a peut-être enlevé un petit peu de confiance également. Lui-même l'a qualifié de stupide et inutile.
Mm-hmm.
Un point quand même pour Yuki, mais je veux dire, ce deuxième siège-là chez Red Bull, c'est un endroit d'art.
Il est maudit.
Là. C'est incroyable.
C'est terrible.
Comment
ça,
on peut dire? Imaginez, là, puis faisons un lien tout de suite vers Ferrari, mais imaginez si un des deux pilotes finissait premier, l'autre dixième, ou le deuxième même pas dans les points ou quoi, à quel point on serait
en train... catastrophe, là.
Ben non, mais c'est déjà une catastrophe quand on parle de Lewis en ce moment.
C'est une catastrophe. Ça serait une catastrophe chez Ferrari, mais ça n'est pas une chez Red Bull du fait qu'on a été habitué à ça depuis un an et demi maintenant, un an.
Ouais,
on dirait qu'on a plus d'attente pour un deuxième
pilote. Même plus que ça, je veux dire... Et d'ailleurs, c'était une des rumeurs que Christian Horner allait perdre son emploi... Après, est-ce que Max vient de sauver l'emploi de Christian Horner ou on a... tout ça, c'est un petit peu en dehors des proportions. Là, que, bon.
Ça me fait rire parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on est dans le doute chez Red Bull, Max a la solution pour ramener tout le monde à l'ordre.
Ouais. Ça prend une bonne performance, un bon week-end de Max.
Ouais.
Puis on se dit, oh, non,
on est content.
We're back. On est de retour.
Écoute, on fait le lien vers Ferrari, mais on va revenir parce qu'on a beaucoup à jaser. McLaren, écoute, je pense qu'encore là, il y a de la controverse et on prend des décisions sans prendre des décisions. On ne veut pas faire mal à un des deux pilotes. On ne veut pas faire mal. Puis bon. J'ai l'impression qu'on est confortable dans le fait que si on termine 2-3, on va remporter le championnat des constructeurs, puis on se met un petit peu en danger pour le championnat des pilotes à ce moment-là. C'est dans des situations comme ça que j'ai de la misère avec la façon que McLaren gère les choses.
Il manque un peu de direction, là. Parce que, on les a laissés courser en fin de course. On s'est dit, OK, mais tu m'as envoyé les paroles de Jacques Villeneuve
là-dessus,
qui était quand même bonne, qu'on pourrait nuancer un peu quand même, mais tu sais, Norris allait toujours passer Piastri. Là. Piastri avait des pneus de 15-20 tours. Puis Norris en avait des nouveaux. C'était une question de temps avant qu'il ferme le gap, qu'il dépasse, puis ça laisse faire sa piste. Puis on était content de voir un dépassement relativement clean, même si ça a quand même été...
Il a quand même dû travailler pour.
Puis à ce moment-là, je veux dire, la victoire était hors de la portée de Norris à 100%. Je pense que il aurait fallu faire le swap probablement.
Mais si tu donnes une consigne d'équipe claire, là,
ouais.
Comme on va redonner ça, là, comme on a fait entre Lewis et Bottas, par exemple,
ouais.
Laisse passer Norris.
Ouais.
Au lieu de se battre pendant 3-4 tours, là, laisse passer Norris, va essayer d'aller chercher Verstappen. Si t'es pas capable, redonne la place à Oscar, puis ça va être ça. Là,
ben, j'ai l'impression qu'on est un peu complacent du fait que c'est le début de la saison relativement encore. Le classement, il va bouger, puis on veut pas encore favoriser personne. Puis la façon que Norris embarque sa radio, puis essaie de prendre des gants blancs en plus pour dire « Ouais, peut-être que si, ça serait... » T'sais, on parle de sa mentalité des fois, là, ça aurait été un bon moment pour dire « Écoute, j'ai de la gomme fraîche, Piastri pas, on veut-tu gagner cette course-là ou on veut même pas essayer? »
Non, ouais, 100%.
Comme Lewis l'a fait la semaine.
Ouais, exact.
À Miami.
Ouais.
Prenez un break.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Have a tea break while you're at it.
Il y avait peut-être des consignes pré-course plus claires qu'on pense aussi, là, de dire « Peu importe ce qui arrive, on vous laisse courser puis on s'en va jusqu'à la fin. » Puis il n'y a aucun des deux pilotes, je pense, qui sort de ce week-end-là et qui est dans une mauvaise relation avec l'équipe au moins. Alors que si on avait fait un swap, peut-être que là, tu commences à envenimer les choses à la course 7, qui est possiblement une mauvaise chose.
Mais c'est quand qu'on va prendre une décision là, chez McLaren et favoriser un pilote? Il va falloir le faire éventuellement. Là.
Mm-hmm. Ben là, le championnat est tellement serré maintenant que c'est un petit peu difficile de le faire. Là. Voyons voir... Moi, je pense que Oscar a la mentalité de performer à Monaco. Tu sais, l'an dernier, aurait
on l'a vu
pu gagner
était là
la course.
Tout le long, là, ouais.
Exact. Et tu sais, Lando, bon, déjà fait un podium, là, mais je veux dire...
En qualification sur les 7 dernières courses, avantage Piastri quand même à Monaco.
Ouais. Un autre pôle pour Piastri encore.
Ben ouais.
C'est,
il est rapide, le petit. Hein.
Il est très, très solide.
Sur un tour, est-ce que... Vous avez vu, à la fin, il arrive, il prend les 2-3 derniers virages, puis il dépasse 4 ou 5 voitures qui attendaient là pour faire leur tour rapide aussi. Là, il n'y avait pas des conditions idéales, puis il réussit à aller chercher la pole quand même.
Le Piastri mène Norris par 13 points et Verstappen par 22 points. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. Après ça, c'est George Russell, Charles Leclerc qui a 8 points devant Lewis Hamilton, qui dépasse Kimi Antonelli de 5 points maintenant. Alex Albon, 40 points. Ça, c'est vraiment cool.
C'est
pas pour rien que j'ai mis ma casquette Williams aujourd'hui.
Très bien.
Que vous pouvez notamment trouver chez nos amis de chez Fanabox, hein, dans le Vieux-Montréal. Et Esteban Ocon, 14. Lance Stroll, 14. Carlos Sainz, 11. Yuki, 10, quand même. Pierre Gasly, 7. Kamadjar, Hülkenberg, Behrman sont à 6. Et le reste sont à 0. J'ai hâte qu'on parle d'Aston Martin, d'ailleurs, rendu là.
Mais pour finir sur McLaren, par contre, c'est vrai qu'il va falloir prendre une décision claire à un certain point. Je ne sais pas si on se dit, justement, on attend la pause estivale, puis après, on voit où est-ce que les choses sont. Puis en ce moment, on ne se mouille pas. Là. C'est ce qui s'est passé en fin de semaine. On est resté un peu gris. Mm-hmm. On n'a pas pris de décision pour favoriser personne. OK.
Même, on a défavorisé.
On est sur la pointe des pieds, puis
on a défavorisé Oscar, là, on en a parlé plus tôt dans l'émission, là, mais bref, j'ai hâte de voir ce que ça va nous donner. Quand tu as clairement la meilleure voiture, tu dois te qualifier en premier à Monaco. Là. Tu peux pas commencer à jouer avec le feu puis essayer de te mettre derrière. Malgré que là, si je me trompe pas, c'est deux arrêts. C'est une stratégie de deux arrêts obligatoire en fin de semaine.
Je sais pas si ça sera...
Ils ont amené
ça commence
les
cette
deux
année,
arrêts obligatoires. D'ailleurs, c'était la deuxième option de plusieurs écuries en fin de semaine, les deux stops. Là.
Les, encore une fois, les voitures de sécurité qui nous ont aidé en fin de semaine. Ouais. Là, on s'en va chez Ferrari d'ailleurs dans quelques instants. Mais à Monaco, avec deux arrêts, est-ce que finalement Ferrari pourrait avoir l'avantage? Hein, on est vite, puis les arrêts vont très très bien présentement, contrairement à McLaren.
Le pace en course, c'est pas mauvais non plus. On fait tout le temps au moins une erreur par fin de semaine. Quand est-ce qu'on va la faire? C'est la question.
Ouais, c'est ça.
Box, box. Stay out.
Ils n'ont pas des bons antécédents Ferrari à Monaco là, depuis des années.
Non, mais quand tu commences à écouter ton pilote, c'était le cas de Carlos Sainz et c'est le cas de Lewis. Quand tu commences à l'écouter, puis que c'est lui qui joue à l'ingénieur, là, ça va bien. Parlons-en de Ferrari. Samedi, j'ai pété une coche en
ondes. Ouais.
Après les avoir vus pas passer, c'était la catastrophe pour moi complètement. En disant un circuit que tu ne peux pas dépasser, tu n'es pas capable d'aller en Q3, tu te qualifies 11-12. On n'est pas capable sur un tour de faire exprimer la voiture. Ça allait vraiment pas bien. S'il y avait une nouvelle correcte, là, c'est que justement, tes deux pilotes sont à peu près pareils. Là. Et Lewis qui a dit, après avoir dit qu'il était dévasté, surtout pour les tifosi qui étaient là et tout le reste, que on avait quand même progressé dans cette séance de qualification-là. Charles, Charles est complètement débiné, trop émotif, si on veut. Et bref, c'est ça. Puis en fin de semaine, 4 et 6, une remontée spectaculaire. Même, tu donnais un tour de plus à Lewis, finissait sur le podium parce qu'il il arrivait dans le DRS de Oscar et il remontait à peu près une seconde par tour sur Oscar Piastri. Gestion de maître de sa part, les stratégies. Et lui-même a dit que ça a été une de ses meilleures courses en carrière aussi. Est-ce que, Fred, dans la télémétrie que tu vois, on... Tu sais, puis en même temps, même si tu commençais au début de la saison en te disant « Hey, tu vas finir 4e, 6e à Imola », je pense qu'aucun fan de Ferrari aurait été content, ni même l'équipe. Mais là, présentement, dans les circonstances,
bon, on est arrivé...
est-ce qu'on a fait un pas en avant?
On est arrivé 3e et 6e l'an passé. Niveau race pace, c'est exactement les mêmes temps autour, sinon un petit peu plus lent que l'an passé, par contre, pour Ferrari pendant la course. Tu sais, c'est sûr que les pneus étaient un peu différents de l'an passé aussi. Là, le compound que Pirelli amène n'est jamais exactement le même d'une année à l'autre. Mais on ne parle pas d'amélioration comme on a vu justement pour McLaren et Red Bull. Puis,
les améliorations sont supposées venir à Barcelone pour Ferrari. Là.
C'est bon. Fait que, ouais, on verra à ce moment-là. Mais ce qu'on disait aussi pour la qualification, ce qui manque, c'est qu'on n'est pas capable de mettre l'auto dans sa... Tu sais, il y a un point aérodynamiquement où est-ce que tu set-up la hauteur du devant et de l'arrière de l'auto. Puis on n'est pas capable de l'opérer à ce point-là parce qu'elle devient instable. Puis les pilotes ne sont pas contents avec. Fait que, tu l'opères à l'extérieur de sa fenêtre de performance optimale, c'est sûr que tu peux pas t'attendre à sortir un gros tour en qualification.
Oui, mais c'est un bon point que tu amènes. Puis on a entendu souvent là, depuis le début de l'année que les pilotes n'étaient pas capables de trouver l'équilibre de la voiture en qualif, mais que rendu en course, là, on se sentait mieux. Lewis l'a d'ailleurs dit là, après la course à Imola que là, pour une fois, depuis, je pense, la Chine, il sentait vraiment là, en symbiose avec la voiture. Non, c'est ça.
Que la balance était bonne, c'est juste que là, c'était les pneus qui fonctionnaient pas.
On n'avait pas assez d'adhérence, c'est ça. Puis l'adhérence qui peut venir soit des pneus ou du load que tu génères avec ton aéro. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a juste pur et simple manqué de performance. Puis on a été surpris par Aston qui ont été rapides sur un tour.
Ouais, effectivement. Puis écoute, je voulais vous faire réagir là-dessus parce que un journaliste que je respecte et que j'admire énormément, Martin Leclerc, qui a suivi la Formule 1 pendant longtemps, a parlé des statistiques de Lewis Hamilton dans les dernières saisons. En fait, depuis 2021, qu'il s'est fait battre en qualification par son coéquipier dans à peu près 77% des sessions. Pas des statistiques très, très reluisantes là, pour Lewis et que son arrivée chez Ferrari, somme toute, est extrêmement difficile. Quand tu regardes le résultat de la course actuellement, tu sais, il est à 8 points de Charles Leclerc. Il a fait 2 podiums dans des courses sprint. Il a passé très près de monter sur le podium là. Est-ce que Lewis a vraiment perdu de sa superbe ou ce sont des circonstances qui... Tu sais, par exemple, George Russell qui était correct avec la voiture chez Mercedes et Lewis qui travaillait très, très fort, lui, pour l'améliorer. Donc, différents setups. Puis on a vu que il s'est mis un petit peu volontairement dans cette position-là et que l'arrivée chez Ferrari a été plus difficile dans un contexte où l'équipe va pas mieux. Tu sais, Charles va pas nécessairement mieux que Lewis. Là.
Non, mais c'est extrêmement dur de juger comme l'athlète en Formule 1 versus n'importe quel autre sport, j'ai l'impression, parce que justement, il y a toujours un aspect circonstance, un aspect est-ce que tu es à l'aise avec l'équipement que tu as, qui c'est beaucoup plus important que dans d'autres sports. Puis Lewis n'a pas eu des conditions super gagnantes quand même pour les 4 dernières années même. Là.
Puis là, 22, 23, 24, 25, ouais.
Ouais. Puis, en tout cas, on sent encore sa motivation. Puis, on a des, tu sais, on entrevoit ce qui pourrait être si chez Ferrari, on était capable d'y donner un package qui était performant, tu sais, d'une semaine à l'autre, puis d'un week-end à l'autre. Puis après, ça va être de voir en 2026 aussi comment il va s'adapter aux nouvelles voitures, aux nouvelles régulations, parce que là, pour cette année, c'est, chez Ferrari, c'est... Ouais, je ne sais même pas c'est quoi l'objectif là, en ce moment. Là, si on fait ce qu'on peut, puis on sauve un peu les meubles pour finir la... Pour faire le reste de la saison.
Au moins qu'on ait gagné une course, là, ou qu'on monte sur un podium dans une vraie course. Là. Ouais. Charles l'a fait une fois, mais il faudrait qu'on...
Peut-être qu'on travaille déjà fort sur le package Monza chez Ferrari, puis qu'on a mis toutes les œufs dans ce panier-là.
Il y a des bonnes chances, hein, mais non, c'est ça. Puis peut-être que ça va être aussi le point tournant 2026 là, pour Lewis. Là. Peut-être que si on réalise qu'on n'a pas vraiment la voiture, même avec les nouvelles réglementations, mais là, peut-être que... Okay, ben, on va peut-être coller ça. Là, on va peut-être.
Moi, je vois un peu une dernière chance, là, comme dernière opportunité de sortir fort puis de pouvoir aller chercher un championnat puis de finir de laisser sa marque. Là.
On dirait que j'ai pas hâte en 2026.
Ah, ça va être stressant.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Non, mais c'est vrai. Là, je veux dire, là, ce qu'on entend, là, c'est que je veux dire, Ferrari sont derrière. Red Bull aussi sont derrière leur développement. Ouais. Supposément que la motorisation Mercedes va très bien, mais est-ce que ça se traduit en piste? Il n'y a pas si longtemps. Souvenez-vous, là, quand Mattia Binotto était à la tête de Ferrari, on disait le moteur Ferrari est tellement puissant qu'on est obligé d'y aller avec un setting dans le moteur là, qui est comme le setting B, là, si on veut, pour baisser.
Tu le laisses tranquille.
Ouais, c'est ça. Et finalement, je veux dire, Red Bull a gagné combien de courses cette année-là? On a eu un petit peu une lutte avec Charles Leclerc au début de la saison. Puis par après, ça a été ça. Donc, est-ce que ça veut nécessairement dire que Mercedes va tout casser l'an prochain? Pas si sûr de ça.
Il y a beaucoup d'impondérables. Hein? On va voir rendu là, mais ça va être...
Mais c'est ça la beauté. Plus haute. Ouais, c'est ça la beauté de ça. Mais en même temps...
Toi, c'est sûr qu'en tant qu'ingénieur, t'as hâte de
ça
voir
ça. Ça va être intéressant
ça.
De voir
moi,
comment
j'ai,
ça va
j'ai,
sortir.
J'étais un peu nerveux... J'ai hâte de voir l'entrée de Cadillac en Formule 1. Là.
Aussi.
Ça, c'est certain.
Checo.
D'après moi, ça va être...
Checo pour venir.
D'après moi, ça va être Checo et Bottas. Là. On verra ça. Mais avez-vous vu... Parlons tout de suite de Monaco avant de passer à Williams là, puis à Mercedes. Avez-vous vu ça qu'avec une 11e écurie, c'est à peine si on va avoir de la place dans les puits. Tu sais, les équipes...
Ouais, c'est serré à des places.
C'est,
là, hein.
c'est ouais. beaucoup trop serré. Ouais.
Je pense, mettons, à Montréal. Tu sais, Montréal, quand Haas, le Haas qui est la dernière depuis très longtemps, puis après ça, on a eu Sauber, bref. Après ça, là, c'est très serré, là, où est-ce qu'il y a l'espace de la voiture de sécurité et tout. Ouais. Où c'est qu'on va rentrer une autre affaire, là, un autre derrière, un autre
un petit gazebo au bout, peut-être.
Ouais, c'est, ouais, c'est ça, c'est
une tente. Je veux dire, Monaco garde son statut d'endroit mythique, mais...
Ouais, mais comment tu rentres deux autres garages à cet endroit-là? C'est un peu plus difficile.
À un moment donné, est-ce que... Tu sais, puis on dit que la Formule 1 a grand... Tu sais, est peut-être en train de trop grandir pour ce que Montréal peut offrir comme place.
On a enlevé une vingtaine de centimètres de largeur sur toutes les voitures. Peut-être que ça fait assez de place pour deux autres.
Ouais, c'est ça, exact, peut-être.
c'est le même qu'on pense à chez les Liberty Media, tu sais.
Ouais,
tu sais, quand t'achètes des biscuits, genre, il y en enlève un dans le fond tout le temps,
ouais,
ou ils rapetissent un bon peu, comme un moment donné, ils chargent
la Mais les toutes, un en ligne de l'autre, là, puis on a de la place pour deux autres voitures, ça va être serré, ça sera pas drôle. Là. Non, je suis d'accord avec toi que Monaco, au moins, là, les voitures vont être un petit peu plus petites l'an prochain, mais je veux dire, je pense pas que ça va nous donner des courses même plus excitantes. Là.
Ouais, mais moi, je suis... Je garderai pour toujours quand même Monaco.
Ouais, c'est ça le débat.
Il est nécessaire. Si on enlève tous les circuits classiques, ça serait quand même un que j'enlèverais dans les derniers. Là.
Qu'est-ce que Monaco amène selon vous au calendrier?
Ben, c'est un.
La prestance, la place, puis juste les images du week-end, c'est comme. C'est tout ce que la F1 veut projeter. Puis c'est ce que tu penses quand tu penses à la Formule 1 aussi. Là.
J'en ai déjà parlé l'an dernier suite au Grand Prix de Monaco, justement, puis c'était Martin Lemay qui me posait la question, tu sais, à quoi ça sert? Là. Mais quand tu regardes le calendrier de la Formule 1 au complet, tu as différents tests pour les équipes.
Exact.
Pour aller gagner le championnat des pilotes, le championnat des constructeurs, tout ça, tu as des tests de vitesse pure, Monza, en est un. Tu as des tests excessivement techniques pour les pilotes. Imola en était peut-être un. Et tu as des tests physiques aussi, des pilotes.
Singapour,
Miami en sont.
Ouais.
Tu as des tests pour les
qualifications. Tu as des tests de stratégie et d'exécution pour les équipes.
C'est Monaco. Monaco là. Ouais, c'est sûr que ça donne pas de spectacle. Là, tu t'assois et tu regardes ça. Ben oui, ça tourne en rond pendant 60 quelques tours, mais le pilote en tant que tel, la qualification que tu dois aller chercher, quand tu regardes les tours mythiques que Max, que Michael Schumacher, que Lewis ont fait sur ce circuit-là, ça...
Ah, puis pour être allé voir des essais libres dans la chicane de la piscine,
c'est impressionnant.
Unique, c'est vraiment hot comme place. Là. Ça n'a pas rapport, là, t'es assis là dans un grandstand sur le port. Tout
ça, on regarde ça à la TV et on se dit, j'ai pas le goût de le regarder, mais tu sais, si... On t'envoie une invitation, on te dit je te donne un billet, tu peux aller n'importe où dans le monde.
Probablement que ça serait un que tu prendrais quand même. Là.
Ben, tu y penses.
Il serait dans ton top 5, là. C'est sûr.
Vas-tu à Monaco? Vas-tu? Vous faites quoi, vous autres?
Si on demande la question à nos fans. Un billet, ça serait un
billet.
Bon,
on va mettre ça sur nos médias sociaux. Ouais. Si on vous donne un billet, dites on vous fait voler en classe affaires n'importe où dans le monde, vous allez voir un seul Grand Prix gratuitement, sur le bras, avec nos passes médias. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? C'est sûr que vous pensez à Monaco.
Ouais, Monaco ben oui, va ben sortir. Oui,
c'est sûr.
Tu mettrais Melbourne quand même dans la liste, probablement.
Je l'ai déjà fait. Là.
Ouais, non, mais dans le sens que c'est l'expérience week-end.
Abu Dhabi.
Ouais. Probablement.
Ouais, moi, les cinq à qui je pense, là, Monaco, Abu Dhabi, Brésil, Singapour. Est-ce que, Melbourne probablement. Je t'aurais dit Malaisie à une certaine...
Moi, je pense que j'irais à Singapour. Justement, une bonne place que c'est urbain, que tu peux rester en ville, puis avoir comme le full kit, là, ça serait quand même... Ça serait pas
c'est pas pire. Écoute, dites que je suis fou, là, mais moi, je me mets une casse-tête de Ferrari, puis je m'en vais me pitcher dans le fond.
Ouais, c'est vrai que...
Je m'en vais me transformer en tifosi malade mental, là, pour vrai.
Ça doit être fou à la Monza.
Ouais, mais c'est bon. Bonne question pour.
Je vais m'organiser pour aller à Vegas cette année.
Vegas, ça pourrait être. Vegas, en est un qui est malade, c'est sûr. On parle
de ça. Ça n'a pas encore le statut de. Tu sais, l'histoire. On est chanceux de vivre Montréal à chaque année. Ouais.
Mettons qu'on flippe la question. Lequel t'irait le moins, par exemple? Où est-ce que ça te tente pas vraiment d'aller? Là? Tu te dis, oh, cette place-là, tu me donnes un billet.
Imola aurait été de ceux-là.
Pour vrai?
Ouais. Okay. Belgique, peut-être juste pour la température. Ouais, mais j'aimerais
faire
ça.
Silverstone, mettons une poignée d'un champ à te faire rincer au 20
Silverstone,
minutes.
Silverstone, j'ai pas parlé de Silverstone.
Ouais,
je veux tous les faire.
Ouais,
là.
Ça c'est sûr. Moi, je sais pas. Spielberg, ça m'intéresse pas. Excuse-moi, Fred, je sais.
Ça t'intéresse pas.
Spielberg, en
Autriche. Crème, la vue, c'est montagne. Le spot est pas mal. C'est vrai que la piste est courte un peu. Ouais.
Mon
on est trop
fan
pour en sortir un, je pense.
Ouais, mon voyage de 40 ans l'an prochain, je m'en vais au Japon, mais je sais pas si j'irai voir le Grand Prix de Suzuka.
Ah, mais ça, avec, ça va être une ambiance incroyable. Là. Mais un qui doit être moyen pour avoir vu des vidéos YouTube là-dessus, Bahreïn.
Ouais. Bahreïn. C'est vrai que ça a l'air un peu mort aussi, puis c'est un peu vide.
Bahreïn, Arabie Saoudite. Puis c'est pas.
Début de saison. Là.
Abu Dhabi, j'ai marché le circuit. Là. J'ai
vu ça, je suis extrêmement jaloux.
Mais d'être là-bas avec les feux d'artifice, tout ça, là, ça a l'air complètement exceptionnel. Un grand prix que j'aurais vraiment aimé. Souvenez-vous, le Grand Prix de Valence. Qu'il y avait Valencia.
Ouais, avec les murs bleus, là.
Ah, c'était beau, ça. Ouais. J'aurais vraiment aimé ça.
Je pense que c'est la dernière victoire à Fernando Alonso, si je ne me trompe pas.
Ça fait
avec Ferrari en 2012.
La Malaisie, ça aurait été excellent. Bref, puis sûr, les circuits en France aussi étaient très, très beaux, là.
Ouais.
Surtout le dernier, là.
Pas le record.
Pourquoi qu'on a enlevé ça?
Ça nous serait une bonne question. Le meilleur circuit, où est-ce que vous aimeriez aller? Celui-là qui vous tenterait le moins, puis après ça, celui-là que vous ramèneriez.
J'ai des notes à prendre.
Ouais.
Moi, je ramènerais Malaisie en premier. Okay. Oui, Malaisie en premier. Mais Paul Ricard, c'était vraiment quelque chose. Avec les espèces de... C'était pas des bacs à gravier, là, mais l'asphalte
peinturé. C'est cool, hein. C'est genre des bandes ondulées.
J'en ai oublié un qu'il faut absolument aller au Mexique.
Ouais, ça a l'air cool.
C'est vrai que Mexico,
ça a l'air cool.
C'est dans le stade de baseball.
Ouais.
C'est pas mal.
Vraiment incroyable. OK, là.
Bon, là, on a eu une bonne course, un bon week-end en fin de semaine.
On
est parti.
On se plaint devant le plein un peu. On n'a pas parlé aussi de la beauté de Miami. Tu sais, si tu veux vivre
ben,
ça.
L'événement
est incroyable. Williams, les gars.
Williams.
Je me posais une question en m'en venant ici ce matin dans ma voiture. Tranquille, tu sais, papa. Est-ce qu'on peut monter sur le podium à Monaco?
Moi, je pense que Williams va faire un podium cette année. Honnêtement.
Non, mais à Monaco, là, quand tu regardes le pace de la voiture présentement, la façon que Sainz et Albon qualifient, est-ce qu'on est capable de monter? Fred est vraiment pas sûr, mais...
Moi, je pense pas que... Williams a jamais été une...
À Monaco,
de, ce set de règles-là, Williams a jamais eu un package où est-ce que t'as du beaucoup de load aérodynamique puis que t'as de la bonne vitesse en virage. Ça a toujours été des packages qui ont été plus axés sur pas avoir beaucoup de traînée, fait qu'une vitesse de pointe assez élevée puis plus rapide dans les virages à haute vitesse. Fait que Monaco, probablement... C'est un one-off, là. Je mettrais ça de côté, à moins qu'on ait développé un bon... Parce que tout le monde, vous allez voir, là, en fin de semaine, tout le monde va amener des trucs one-off qu'on ne verra pas de la saison après, probablement, à Monaco, là. Ça va être des ailes arrière qui vont sortir une fois, puis après ça, ils vont être perdus pour le reste de l'année.
Alors, sous question, si ça se peut pas à Monaco...
Monza. Peut-être.
Montréal.
Ouais. Montréal. Montréal aussi, ouais, ça serait très intéressant,
si Williams monte sur le podium à Montréal... Je fais en deux, je pense. Je serais tellement content de voir ça.
Ferrari ne soit pas dans les points.
Non, mais on s'en va. Tu peux pas faire pire que l'année passée, Ferrari.
Non, non, Ferrari, c'est l'enfer l'an passé. Ah, oui.
Mon Dieu, que c'était. Et puis, ils sont arrivés comme favoris. Là.
Ouais.
Rappelons ça. Là. Je me souviens, j'étais devant Lando. Hugo, on était là.
Oui.
On lui a posé la question. On a dit ouais, Ferrari sont clairement les favoris en fin de semaine.
Mais il y avait eu du space dans les essais libres, tout. Là, c'était malade.
Puis, non, ils ont fait une grosse boulette, finalement. Ben oui, parlez de Williams en fin de semaine qui ont surpris là, avec Aston Martin qui ont peut-être été les deux grosses surprises du week-end.
Mais ouais, on a du pace, on a été bon en qualification, on arrive, puis on a peut-être pas pris une décision optimale avec Sainz comme on n'a pas pris une avec Piastri, on a un peu séparé les deux pilotes, puis je trouve ça triste un peu pour Sainz parce que...
Il était malchanceux aussi. Là.
Tu parles des points au championnat des pilotes depuis le début de la saison, puis t'as Albon à 40, puis Sainz qui est loin derrière, alors que tu sais... Oui, eux, un départ un peu plus lent, mais depuis la course 4, mettons, on parle, tu sais, qui est... Puis en fin de semaine, c'est lui le meilleur des deux pilotes, selon moi,
le chez Williams. Le pied de nez, toi, chose, à Ferrari. Ferrari 11-12 dans la Q2.
On le voit en entrevue après.
Sainz premier.
Ouais.
Fait répéter la question à un journaliste de Sky Sports, dit « Ah, je suis plus rapide que... » Ah, bof. Cool.
Il dit, si tu m'avais dit ça l'année passée à Imola, je t'aurais jamais cru là, que dans une Williams, t'allais...
J'allais être plus rapide que...
Ben oui, il a joué de malchance, puis il manque de finition peut-être un peu, Carlos Sainz, malheureux. Puis regarde, c'est pas un reproche. Je pense que finalement, Carlos Sainz, il a eu la main haute là-dedans. Tu sais, c'est un peu comme un cadeau qu'on lui a fait en lui disant, écoute, on va prendre Lewis. Et là, Lewis Charles se ramasse dans des positions très stressantes avec énormément de pression. Carlos Sainz arrive avec pas de pression chez Williams. Nouveau projet qui est en montée.
On construit. Puis,
ça va super bien actuellement.
Non, non, c'est beau de voir ce qui arrive avec eux autres. Puis, ça fait quand même quelques fois qu'on le dit depuis le début de la saison. Puis, je pense qu'on continue de le dire. Puis, un podium d'ici la fin de l'année, ça serait...
Je pense que c'est réalisable. T'sais, mais t'sais, on l'a vu dans Drive to Survive. Là, James Vowles avait l'air d'être d'attaque sur le dossier de Carlos Sainz. C'est lui qui voulait dans cette Williams-là. Et je pense que chose...
What happened? Flavio called.
Ouais, ça, c'était malade, ça. Puis, mais justement, le fait que comme on ait déjà ces attentes-là puis qu'on anticipait l'arrivée de Sainz, je pense que c'est quelque chose que Ferrari n'a pas fait. Comme pris pour acquis qu'on avait Hamilton puis que ça allait se régler parce que Lewis s'en venait, tandis que Williams a vraiment fait genre, OK, là, on a un bon... Ben, Albon est excellent, mais
on a deux
excellents pilotes. On doit donner une voiture avec des performances et on le voit depuis le début de l'année. Williams est quasiment meilleur que Ferrari.
Moi, puis c'est une des équipes que niveau staff d'ingénierie aussi ont engagé énormément dans la dernière année. Puis il y a beaucoup de monde qui se sont déplacés, d'autres équipes du top 3 qui sont allés chez Williams aussi parce qu'on voit qu'on est en train de construire quelque chose d'intéressant là-bas.
Mais qui ne veut pas que Williams ait du succès?
Ah non,
ça fait assez longemps.
C'est un duo qui est un des meilleurs. Ouf, non, ça c'est pas glorieux. Là.
Mais c'est vrai, par exemple.
Les sabres de Buffalo.
C'est, ben oui, tout le monde veut que les sabres connaissent du succès.
Non.
Pourquoi non? Non!
Je connais personne qui veut que... On s'en fout des sabres de Buffalo.
Mais non, mais c'est vrai, au nombre d'années.
De Williams, c'est plus... Ben,
au nombre d'années qui sont des Buffons.
Mais non, mais je vois Williams comme étant plus... c'est un comparatif à faire. Williams est presque... Et tu peux quasiment pas aller là, mais je veux dire, c'est presque les Canadiens de Montréal, là.
Quand avec deux, trois années de décalage, là, mettons.
Ouais, non, mais je veux dire, les Canadiens de Montréal, tu peux les comparer, par exemple, à Ferrari, mais dans un certain sens, les Canadiens quand ils ont du succès, il n'y a personne dans la ligue qui est fâché que le Canadien ait du succès. Puis on se dit, le Centre Bell, tu sais, je veux dire, le hockey est meilleur quand les Canadiens performent. C'est un peu la même chose avec Williams, là, je veux dire,
okay, oui,
avec l'historique qu'on
là,
a, puis on veut que les on veut que ça fonctionne
chez
Williams.
Ça, je suis d'accord, t'as un bon point, mais dans le sens que ça fait comme
tout le monde
va se réjouir du
succès. Avec les sortes de Buffalo, c'est sabre.
Non, mais écoute mon point. Dans le sens que depuis 2014, on a eu beaucoup de difficultés chez Williams à connaître du succès, puis ça a été difficile depuis tellement longtemps. Ça fait peut-être 2 ans là, qu'on recommence.
C'est une équipe qui, en début de saison, tu fais un trait dessus.
Exactement,
après
là. Je pense que étiqueter une équipe au bas-fond et voir cette équipe-là se retrousser les manches rapidement et revenir. Mm-hmm. Tu sais, le Canadien, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu des runs comme on a connu là. On n'a pas connu du succès, puis c'est pas prometteur comme ce l'est maintenant. Mais le Canadien n'était pas au bas fond aussi longtemps que les Sabres. Bref.
Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis prends pas ça de façon malicieuse.
Ben
non,
tu ramènerais qui à Aston Martin, mettons?
Oh boy. Ben là,
ça, c'est les Dancy.
C'est les Wings?
Ouais.
C'est les Red Wings de Détroit, Aston Martin?
Non, Aston Martin, c'est... Aston Martin n'ont pas le capital de sympathie, malheureusement.
Non, c'est vrai.
Red Wings de Détroit, ouais. Là, c'est... Écoute, j'aurais de la misère à leur donner un qualificatif. Ouais. Aston Martin, qui ont encore juste 14 points, toutes de Lance Stroll.
Ben oui. Production.
Ouais, ça va.
Lance, là, on peut-tu arrêter un peu là, encore du taper
ça
à la tête?
Ça a trop besoin en ce moment.
Sérieux, en ce moment, ça va pas payer son affaire. Ils ont été tellement malchanceux. Puis la gestion des pneus aussi, la dégradation des pneus chez Aston Martin, mais quand même, de les voir les deux passer en Q3, je pense qu'on est quasiment parti sur le party chez Aston Martin. Après que, tu sais, est-ce que, là, je te pose une question que on connaît probablement déjà la réponse, mais il y a plusieurs fans de Formule 1 et probablement des gens qui nous écoutent, d'ailleurs, merci d'être à l'écoute avec nous autres, qui se posent la question, est-ce que ça se peut que ça soit déjà un peu un effet d'Adrian Newey?
Ouf! Avec une amélioration qui arrive présentement, je ne penserais quand même pas. C'est sûr qu'il a pu voir les pièces avant qu'ils sortent puis qu'il allait les mettre sur l'auto, puis il a pu voir les données, puis tu sais, il donnait son opinion.
Non, oui, non, oui,
c'est
oui.
C'est pas lui qui a dessiné ça, puis c'est pas lui qui a amené la direction de développement qui est là en ce moment, sa voiture, c'est sûr, à 100%.
Ouais, tu sais, il sort les dessins, là, puis il se plisse les yeux de même, regarde ça. Non, ça fait ça, puis là, hop, passe en Q3 à Imola comme ça.
Ben c'est sûr que son appui...
C'est pour ça
que
je pose la question à quelqu'un qui a travaillé dans une usine ou sous lui.
Oui, sous lui. Mais c'est pas aussi simple que ça quand même de regarder la pièce. Faire comme, ouais, non, peut-être.
La question venait du gars qui connaît rien en ingénierie. Mais tu sais, si moi je me pose la question, il y a beaucoup de gens qui se la
mais
posent quand même.
C'est sûr qu'il a pu vêter les pièces puis la performance de ce qu'on amenait puis qu'est-ce que ça disait dans les outils. Puis... peut-être qu'il a fait la différence chez Aston, c'est que là, ces pièces-là ont été développées dans la nouvelle soufflerie. Fait que si on a vu, s'ils ont bien construit leur nouvelle soufflerie, que c'est bien calibré puis qu'on est satisfait des nouvelles installations.
C'est ce qu'Adrian Newey a dit la semaine passée.
Ce qu'on a vu dans la soufflerie, on l'a amené à la piste, on a vu de la performance sur un tour. Ça, c'est comme un rêve d'un point de vue d'équipe d'ingénierie parce que le pire cauchemar que tu peux avoir, c'est d'avoir des outils qui ne sont pas. En accord les uns avec les autres, parce qu'après ça, lequel que tu vas croire, lequel que tu vas prioriser, ben là, ça devient du guesswork, puis à ce point-là, c'est plus de l'ingénierie, justement. Fait que, mais c'est Aston, je mettrais plus ça sur la nouvelle soufflerie que sur l'arrivée des Adrian Newey. S'ils sont bons l'an prochain, on pourrait y donner plus de crédit, je pense, par contre.
Ben écoute, moi, je trouve ça intéressant, puis encore, moi, j'ai envie, tu sais, j'aimerais ça que toutes les équipes finissent sur le podium, là. Je suis un peu un gars de même, là. Mais je trouve ça intéressant de voir de la façon que. Qu'on performe en ce moment chez Aston Martin. C'est catastrophique au début de la saison. Mm-hmm. Puis là, les deux qui se qualifient dans le top 10 passent en Q3, signe de progression. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on n'a pas un Q3 de même? T'as une Alpine, une Racing Bulls, les deux Williams, les deux Aston Martin, Ferrari qui sort de là.
Hülkenberg était vraiment pas loin de le faire non plus quand même.
Hülkenberg, il y a une bonne course aussi.
Hülkenberg était d'un point à un certain moment.
Oui, contrairement à
son
coéquipier.
Il y a Haas qui a connu quand même un moyen, voire à correct début de saison qui là.
Ouais, ça va.
Horrible en Australie.
En Australie, après, on a rapidement réglé.
Rapidement, puis là, on a redescendu un petit peu. Ocon qui a dû abandonner, on lui a dit arrête la voiture là, là. Et finalement aussi, Behrman. Ça n'a pas été mieux pour Behrman non plus en fin de semaine, malheureusement. Et également pour Gabriel Bortoletto chez Kick Sauber aussi. Gabriel Bortoletto qui a peut-être un peu plus de temps justement, mais est-ce qu'on va vraiment commencer l'ère Audi avec lui aussi?
Ben, c'est difficile.
J'ai l'impression qu'on va lui donner le traitement à Jack Doohan. Éventuellement.
Tu penses? Même si c'est un ancien champion. Parce que, tu sais, on s'entend qu'Adjar fait mieux. Dans cette lutte-là, des deux anciens pilotes F2, là, c'est Adjar qui fait mieux, mais il a peut-être la meilleure voiture aussi. Bortoletto, je sais pas à quel point on voit du potentiel.
Ouais, c'est vrai. Bon, voyons voir. Voyons voir parce que
c'est difficile à juger. Là.
C'est sûr qu'on met en
voiture. Okay, c'est eux les sables, les gars. C'est eux les sables.
Hein?
C'est eux les sables.
Sauber.
Ouais, ça, j'y avais même pas pensé en plus.
On est plus proche.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les autres écuries Racing Bulls Alpine, peut-être avant qu'on passe à notre
segment? Mercedes, un peu décevant vrai, en fin de semaine, dans le sens qu'on est capable de mettre un tour de qualification. Tu sais, Russell qui a passé quand même relativement proche de la pole encore en fin de semaine, puis on n'a pas de. Pas vraiment de pace ou de bon feeling en course après, puis ça continue d'être une saison bonne.
Mais c'est vraiment drôle, Hugo, je te laisse réagir là-dessus, mais c'est vraiment drôle que même ici dans le podcast, on a oublié de parler de Mercedes. C'est comme s'ils sont. Ils ont aucune saveur malgré Kimi Antonelli. La voiture en tant que telle, Kimi a abandonné, puis on oublie d'en parler.
Ouais. On a été triste, par exemple. Moi, j'ai trouvé ça dommage qu'il y ait Antonelli abandonné.
Hugo,
moi,
j'étais triste. Tu nous en parlais?
Petite lampe, j'ai versé. Non, mais puis d'ailleurs, c'est Russell qui a commencé sur des pneus médiums usés.
Ouais,
de, comme une
fait?
Douzaine c'était de quoi, tours au début de la course. Fait que je sais pas c'était quoi la stratégie-là, à essayer le one-stop puis mettre les pneus durs pour le reste de la
Aston
course.
Aston aussi, je pense, qui avait commencé sur des usés.
Aston qu'ils avaient utilisé, c'est ça, en qualification aussi. Ouais. Là, mais je sais pas, là. Je me demande comment on se sent chez Mercedes. Je dirais pas qu'on est dans une moins bonne place que l'an passé parce que là, on est un peu plus constant, mais on est constant moyen.
Ouais.
Mais combien de victoires tu as eu? Lewis n'a gagné deux l'année passée.
C'est vrai qu'on a
George
réussi à aller chercher
une,
des victoires.
Au moins aller
passé.
Chercher trois victoires. Voyons voir ce qu'on est capable d'aller chercher cette année. Là, peut-être au niveau des points, là, on a plus de chances. Quand on regarde le classement des constructeurs, c'est McLaren 279, Mercedes 147, Red Bull 131, Ferrari 114. T'sais, Ferrari sont pas si loin que ça de la deuxième place, malgré tous les déboires, disqualification en Chine. Rajoute les points en Chine, puis je veux dire, t'es quand même proche de, en fait, je pourrais dire de Red Bull. T'es proche de Max Verstappen.
Ouais.
Ben, ouais, c'est plus ça, mais en fait, Red Bull, c'est ça, c'est Max, mais t'sais, Ferrari, un peu comme. McLaren l'a vu un peu comme. Tu sais, on est peut-être à une course, à une pièce, à une modification de complètement transformer notre saison.
Exact.
OK, les gars, qui sont les pilotes maintenant? Celui qui avait du gaz, celui qui dormait au gaz. On va commencer par Hugo, qui remplace un peu Jean-Max dans cet épisode. Qui, selon toi, dormait au gaz en fin de semaine?
C'est une excellente question. Je vais la donner, moi, à Franco Colapinto.
Puis j'ai vu le père de Jack Doohan.
Non, ouais. Un peu de mauvais goût.
Qui a fait un story Instagram en disant hey, waouh, hein, gros talent quand c'est lui-même sorti des qualifications. Manque de classe un peu, puis c'est pas ça qui va aider. Tu sais, dans les moments où est-ce que ton enfant te dit hey, papa, tu me fais honte, là, c'était probablement ça.
C'est sûr que lui, il était pas content. Puis que pour que Flavio et Briatore disent là, OK, là, on lui demande deux choses, d'être vite et de faire des points. Moi, je trouve que Colapinto, oui, c'était sa première course de retour, mais déjà cette expérience-là en Formule 1, il faut qu'on s'accommode à une nouvelle voiture aussi, je suis d'accord. Mais à cause de son accident, je le trouvais très peureux en course.
Il a fait des petites erreurs.
Ouais, il a fait des petites erreurs. Il a été très tôt sur des zones de freinage. Je me souviens plus c'est qui disait ça. Je pense que c'était Alex Jack de F1 TV qui disait ça. Mais
Alexandre Jacques disait que
Colapinto freinait comme un genre de 10 mètres avant tous les autres pilotes.
Ouais.
Donc, j'ai trouvé craintif. Il va falloir qu'il gagne la confiance rapidement. Ouais. Parce qu'il a la vitesse.
Aller gagner de la confiance à Monaco, ça va peut-être être un peu compliqué. Hein, mais
c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est une mauvaise séquence un petit peu. Ouais.
Fred?
Moi, ça va être Liam Lawson, mon pilote qui dort au gaz en fin de semaine. Puis... par contraste avec Adjar, je trouve qu'il dort au gaz parce que Adjar encore un très très bon week-end. Puis Lawson, on l'a remis chez Racing Bull. Je ne sais pas combien de temps je le garderai encore dans le portrait sérieux avant de donner la chance à un autre du développement Red Bull puis de voir si on n'est pas capable d'aller chercher quelqu'un d'autre. Là, parce qu'il va commencer à en avoir fait des courses en Formule 1. Puis à part ses débuts, où est-ce que tout le monde a eu un petit moment d'excitation?
Ouais, puis il a une attitude réprochable.
Un peu nonchalante,
Ouais, un peu nonchalante, un peu FU attitude, mais pas d'une bonne façon.
Exact. T'as une petite chicane avec Fernando Alonso. T'as beau penser que t'es meilleur que lui, dis-le pas. C'est quand même un deux fois champion du monde, puis tu t'attires un petit peu les foudres à ce niveau-là.
Toi, Greg?
J'hésite entre deux. Puis je vais le donner à pas lui.
C'est fun que tu nous dises.
Mais je veux mentionner quand même Oscar, carrément dormi au gaz.
C'est virage 1, c'était 100%.
Puis n'importe qui a une pole à Imola
devrait gagner.
Puis tu te ramasses finalement en troisième place. Donc je pense qu'on a été critique de ça un petit peu, mais Yuki, erreur de pilotage. Démolie sa voiture. Tu finis 10e quand ton coéquipier l'emporte. Malheureusement, Yuki, en fin de semaine, ne m'a pas impressionné. Et je vais... on va faire le serpent. Ouais, donc, je vais prendre le pilote qui avait du gaz, puis vous devinez qui je vais dire.
Ben oui, on sait.
Lewis Hamilton.
Ben oui.
Quelle belle performance qui fait... met les critiques au silence un petit peu pour une autre semaine. Donc, avant d'arriver à Monaco, pour moi, tu sais, oui, il y a eu... Il y a certains qui m'ont dit qu'il était chanceux avec les voitures de sécurité. Ben, tu fais un peu ta propre chance également, puis ça fait partie de la course aussi.
C'est la preuve que quand il y a une bonne voiture puis il se sent confortable, il peut être vraiment, vraiment dangereux.
T'es encore dangereux. Papa est encore capable.
Oui, 100%, 100%.
Fred?
Ben moi...
moins de tils sur sa casquette.
Ouais, Max, en fin de semaine quand même, outre la pole qu'il n'a pas réussi à aller chercher, là, il était excellent, puis tu y laisses... tu lui laisses un centimètre, puis il va passer. Hein. Puis après, puis aussi quand même de donner le crédit à l'équipe là, qui a réussi à donner la voiture en fin de semaine pour qu'il performe, puis qu'il soit pas sous pression, puis que ça soit quand même une course facile pour lui. Là. Donc, j'espère que ça va reflipper les choses au championnat des pilotes, puis je continue de le garder comme mon favori pour gagner cette année.
Ben, c'est fun de savoir qu'il est tout le temps là, puis qu'il donne tout le temps le challenge. T'sais. C'est le vétéran.
Et toi, Hugo?
Moi, j'hésite entre deux, mais je pense que je vais donner à Alex Albon. On a un gros débat durant le broadcast de F1 TV. Il y avait un gros débat à savoir c'était qui les meilleurs pilotes pour conserver leur pneus. Albon doit faire partie du top 2 sur la grille parce que...
Top 2?
Top 2.
Ben oui, top 2. Ben oui, top 2.
Top 2 étant qui d'autre?
Étant Lewis.
OK.
Top 3 étant Max.
Ça dépend
aussi.
Des week-ends, sérieux.
George. George est excellent en gestion de pneus aussi.
On se rappelle.
On a vu Charles les garder longtemps.
Charles est très bon.
Ouais.
C'est pas mal ces 5-là, je pense.
Je pense qu'on
Mais moi, c'est.
Albon. C'est vrai que là, en fait,
c'est dans le top 2.
Lewis Albon. OK.
Ouais, parce que, tu sais, je me rappelle de la performance qu'il avait faite en Australie il y a quelques années, qui a pu faire un train pendant genre 57 tours. Puis qu'il a quand même gardé du rythme. Et là, ben, le fait qu'il ait pu justement rester longtemps sur ses médiums, ça fait en sorte qu'il a pu profiter justement des quelques arrêts au puits pour gagner des places. Et justement, on a un excellent résultat là, en
très
conséquence
fort.
Pour Alex Albon. Donc oui, c'est mon choix du pilote qui avait du gaz.
C'était qui, juste pour le fun, l'autre?
C'était Isaac Hadjar. Parce qu'on avait donné l'ordre à Yuki de garder Piastri derrière lui longtemps. Finalement, ça n'a pas été très, très long. Finalement, c'est Hadjar qui a... c'est Hadjar qui a fait en sorte que ce train de DRS-là vienne nuire à Oscar Piastri. J'ai trouvé ça excellent. Hadjar est toujours dans les points, toujours constant, je trouve.
Oui, excellent.
Très fort. Toi, t'es fort. Isaac, on va essayer de l'avoir en entrevue lors de son passage à Montréal. Les gars, merci.
Ça fait plaisir.
Reparle la semaine prochaine, même heure, même poste, avec un vacancier. On retrouve enfin notre vraie mouture de l'épingle à 4. Merci à tout le monde d'être là. Vous pouvez aller nous donner des petites notes de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube également. Très heureux de vous avoir avec nous chaque fin de semaine. On s'en va à Monaco. On a hâte de vous jaser aussi la semaine prochaine. Salut.
Ciao.
Ciao.